Jean-Claude Bray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conteur et programmé dans le cadre de ce festival Conteurs en campagne. Et avec vous, on va parler de vos spectacles. Mais avant de parler des spectacles, on parle avec vous de votre venue au conte. Comment ça a commencé? Comment est-ce que vous avez rencontré le conte?
Oh, je m'en rappelle plus parce que ça fait déjà un certain temps. Bah, disons, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai aimé le conte dès l'enfance. Il y avait dans les livres de lecture, je pense particulièrement aux livres de lecture qu'on avait au cours élémentaire deuxième année, on avait des morceaux choisis, des extraits de textes pour la jeunesse, et puis à la fin de chaque mois, il y avait un conte traditionnel comme ça, dans son entier. Ça apparaissait un peu ce conte intégral comme ça, comme une récompense à la fin de chaque mois. Alors je me souviens, il y avait un conte marchois sur les souhaits, une petite fille qui donnait ses cheveux un par un comme ça à une sorcière, et puis à chaque fois la sorcière lui accordait un vœu, puis finalement au petit matin elle se retrouvait chauve, quoi. Mais après ça se terminait bien quand même. Il y avait un conte aussi qui est très répandu, qui s'appelle L'enfant de neige, qui est soit un petit garçon, soit une petite fille, ou des fois c'est l'enfant de l'hiver. C'est un couple âgé qui n'a pas d'enfant, et puis ils font un bonhomme de neige. Ce bonhomme de neige devient vivant, et puis disparaît au premier retour du beau temps. Quoi. C'est des choses, moi, je crois, qui m'ont amené à aimer les contes. Et puis aussi, parallèlement, bah, il y avait dans l'entourage des gens qui racontaient, non pas des vrais contes, mais ces gens, comme on en rencontre un peu partout, qui savaient faire de la moindre chose qui leur était arrivée dans le quotidien, qui savaient en faire une vraie histoire, quoi.
Alors, ce qu'on n'a pas dit, mais peut-être les auditeurs ont compris à votre léger accent, c'est que vous venez de la Creuse.
Oui, j'habite dans la Creuse, au nord du département, donc dans la région Limousin. La région Limousin, c'est trois départements, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne. On connaît peut-être un peu mieux à l'extérieur la Corrèze, puisque les présidents ont pris l'habitude de venir de là-bas. Et puis, donc au nord de ma région, bah, c'est cette grande région, la région centre. Avec dans cette région centre, il y a une province de deux départements qui s'appelle le Berry. Le Berry, c'est le département de l'Indre et le département du Cher. Et moi, j'habite juste à la limite du département de l'Indre. Je dirais presque dans le Berry de George Sand, puisque la maison de George Sand à Nohant se trouve à 20 km de chez moi.
Alors le Berry, la Creuse, justement, c'est un peu la matière première de votre travail de conteur. C'est votre principale source d'inspiration. La tradition et la culture orale du Berry et de la Creuse.
Oui, c'est ça. Je vais souvent chercher, en effet, soit dans les contes de la Creuse et de l'ensemble du Limousin, soit dans ceux du Berry, puis je m'aventure un peu plus loin dans les régions voisines, comme le Poitou, l'Auvergne. Et puis j'ai aussi une curiosité pour les auteurs de ces régions, souvent des gens déjà bien oubliés. Je vous parlais de George Sand tout à l'heure. Alors George Sand est connu dans le monde entier, mais après elle ou avant elle aussi, il y avait des écrivains qui étaient des écrivains importants, de bons écrivains, et qu'on a malheureusement trop vite oublié. Je pense à une autre Georges, par exemple, qui s'appelait Georges Nigremont. Son vrai nom, c'était Léa Védrine. Je crois que c'était la grande-tante de l'ancien ministre Hubert Védrine, et qui avait pris pour nom d'écrivain Georges Nigremont, parce qu'elle habitait une maison construite par son grand-père, maçon de la Creuse, qui se trouvait au village de Saint-Georges-Nigremont.
Alors justement, comment ça se passe pour aller fouiller dans ce patrimoine que vous dites oublié? C'est aller dans les villages, à la rencontre des gens, voir un petit peu tout ce qui a été écrit. Comment vous faites pour aller fouiller dans ce patrimoine?
Bah, y a ça aussi, et puis y a les bibliothèques. Souvent dans les fonds anciens des bibliothèques, on trouve des choses importantes, même des fois des recueils. Je me souviens, une fois j'étais allé à la bibliothèque de Limoges, et puis j'avais entendu parler, moi, d'un recueil de contes, des contes collectés auprès des gens qui s'appelaient les Contes du Limousin, par quelqu'un qui s'appelait Denis Roche. Et je vais trouver le responsable du fonds ancien de la bibliothèque. Lui, il n'avait jamais entendu parler de ce recueil. Et on est allé le chercher ensemble sous les toits, là, dans le grenier de la bibliothèque, on peut dire. Et puis, bon, après, il y a les bouquinistes aussi. Puis il y a, oui, ben, comme ça, le bouche à oreille. Il y a quelqu'un qui dit, as-tu entendu parler de ça? As-tu lu ça, quoi? Enfin, bon, c'est un travail de longue haleine, quoi, de chercher tout ça.
Alors, ce patrimoine, justement, qu'est-ce qu'il a de spécifique? J'imagine aussi une langue, des expressions bien à lui, ce patrimoine?
Ben oui, je dirais presque le problème entre la Creuse et le Berry, ou pour quelqu'un qui habite entre les deux, c'est que c'est des langues différentes. Donc le vrai creusois, je dirais le sud du département, au sud de Guéret, et puis une bonne partie de la région Limousin, ben le dialecte limousin, c'est un dialecte de Languedoc. Le Limousin, c'est le pays des troubadours, quoi. Donc c'est une langue ancienne. Qui va de chez nous jusque dans le sud de la France, même si on dit qu'il y a des différences entre les patois, entre les dialectes locaux, et ben c'est... Il y a quand même plus de ressemblances que de différences. Et puis, de l'autre côté, sur le Berry, commence là la langue d'oeil, qui est cette langue d'oeil qui est devenue le français. Bon, il y a le dialecte berrichon, ou le dialecte bourbonnais, c'est des variantes de la langue française. Des fois, on dit du français déformé. Non, c'est pas ça. C'est, je sais pas, comme le picard, comme le ch'ti, peut-être, c'est des formes différentes. On a choisi à un moment le patois d'Île-de-France comme langue officielle, mais tous les autres ont continué à exister parallèlement.
Peut-être quelques exemples d'expressions qui vous plaisent ou des
mots.
Je sais
pas, il y a peut-être un tout petit conte comme ça en patois du Berry. Il y avait une dame de la ville qui achetait toutes les semaines une douzaine d'œufs à une femme de la campagne. Un jour, la dame, elle dit comme ça, cette femme, va aller me rabattre 5 sous sur vos œufs. Par guéouig, a dit cette femme, je rabattrai rien du tout. Et elle reste 2 semaines sans arvani. Ce moment, comme ses poules, la pounée à pleine paillassée, son mari, cette femme, il dit, pour diandon, une douzaine à 25 sous. Et la femme, elle retourne chez la dame en y faisant la douzaine de 25 sous. Mais au bout de quelques temps, la dame, elle dit, je peux plus vous les payer que 20 sous. Du coup, cette femme, elle se fâche et elle jure qu'elle ne reviendra jamais plus. Vous pensez si la dame, elle a été ben étonnée la semaine d'après de la voir arriver. Elle dit, je le savions bien que vous en reviendrez. Cette femme, elle dit oui, et v'là vos œufs. Et la dame de bailler et de s'arruyer devant ces œufs qui n'étaient pas plus gros que des œufs de pigeon. C'est pas des œufs de poule que vous m'apportez là. Si ben, c'est ben des œufs de poule, madame. Ce moment, il faut que je vous dise, comme mes poules, elles avons vu su que vous vouliez plus payer la douzaine que 20 sous, elles se sont assemblées, elles ont croussé, caqueté, papeté, papapi et papapa, et comme je comprenons mieux ce qu'elles disent que ce que dit notre grand vicaire, je vais vous y répéter. Elles avons dit, si cette dame, elle croit que j'allons nous casser le croupion pour 20 sous, tendons pour elle. Et voilà ce qu'elles avons pounu.
Alors, je sais, en tout cas, c'est ce qui est indiqué dans votre biographie, que vous êtes aussi intéressé par le calcul mental. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça?
C'est un peu anecdotique, quoi. C'est des petits exercices de calcul mental qui se transmettaient comme ça, je crois, par tradition, de bouche à oreille. Il y en a un, moi, j'aime bien celui-là parce que je dis que ça m'est arrivé vraiment. Ce qui n'est pas tout à fait vrai de cette façon-là, mais enfin, les compteurs sont des menteurs aussi. Il y a quelques années, j'étais chez mon voisin Camille pour l'aider à rentrer ses foins. Puis à l'époque, on ne faisait pas les grosses bottes rondes, on faisait les petites bottes carrées. Moi, j'entassais le foin sur la remorque, et puis à un moment, j'ai demandé à Camille, qui n'avait pas de vache, qui n'avait que des brebis, j'ai dit, tu dois en avoir une bande d'ouailles, comme on dit, pour rentrer autant de foin. Et Camille, il m'a dit, si j'en avais le double d'autant, plus la moitié d'autant, plus le quart d'autant, plus une, j'en aurais 100. Combien, Camille, y avait-il de brebis? Ben, je ne vais pas vous faire le calcul en détail, mais ça peut se calculer très simplement. Hein. C'est une histoire de fraction à réduire au même dénominateur. Et il avait 36 brebis. Donc, parce que 2 fois 36, ça fait 72. La moitié de 36, 18, ce qui nous fait déjà 90. Plus le quart, 9, 99. Plus une, ça ferait 100. Donc il avait bien 36 brebis.
Jean-Claude Bray est avec nous, Jean-Claude Bray, conteur programmé cette année dans le festival Conteurs en campagne. Alors vous y présentez plusieurs spectacles, notamment Babette et ses frères. Alors un petit mot sur ce spectacle.
Oui, voilà, c'est l'adaptation d'un roman qui n'est pas d'un romancier qui n'était pas tout à fait de ma région. Il était du département des Deux-Sèvres. Et c'est, je dirais que c'est un écrivain, moi je crois à ça, qu'un beau spectacle, un bon livre, ça peut nous aider à vivre. Et à un moment difficile pour moi, la lecture de cet écrivain m'a beaucoup aidé. Et Babette et ses frères, c'est le dernier roman paru du temps de son vivant, parce qu'Ernest Perrochon était cardiaque, et puis il a eu une attitude vraiment exemplaire pendant la Deuxième Guerre. Il a refusé de collaborer à plusieurs reprises avec le régime nazi. Ça lui a valu beaucoup d'ennuis. Il a fait une crise cardiaque et il est mort en 42. Et donc, Babette et ses frères, ben, ça se passe tout de suite après la guerre de 1870. C'est dans le milieu de ce qu'on appelait le milieu de la petite église, là, dans le milieu des réfractaires, une jeune fille de 19 ans qui est séquestrée, battue par ses frères, parce qu'il y a un des frères qui a pris une balle dans la tête de la main d'un communard, et il voit des communards un peu partout, et cette jeune fille se met à fréquenter un jeune homme qui travaille dans la forêt comme bûcheron, et le frère dit c'est un communard, il faut absolument pas que la jeune Babette fréquente ce gars-là.
C'est l'histoire d'une femme battue, c'est ça, enfin ?
Voilà, c'est ça, oui, c'est tout à fait ça.
Autre spectacle, là, il y a aussi les morceaux choisis et puis couleurs locales. Donc là, c'est des bouts de contes.
Voilà, morceaux choisis, j'avais eu l'idée un peu, c'est assez récent, c'est un spectacle que j'ai présenté seulement deux ou trois fois, je crois, jusqu'à maintenant. C'était l'idée de faire un livre de lecture orale, comme ça, avec des extraits de choses que j'aime bien. Alors bon, parfois ça paraît s'enchaîner, d'autres fois ça se heurte, ça se bouscule un peu, quoi. Un livre de lecture que les gens entendraient au lieu de le lire.
Jean-Claude Bray, c'est votre activité principale aujourd'hui, le conte. Vous êtes un professionnel du spectacle ?
Oui, voilà. Bon, moi, j'ai commencé, je peux dire, dans le spectacle par le théâtre en amateur. Après, j'ai fait des études de théâtre. Je me suis orienté un peu vers le théâtre professionnel. Et puis, du théâtre, j'ai glissé vers le conte parce que, bon, il y avait d'une part déjà, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt pour les histoires. Et puis aussi, ce côté qui paraît simple comme ça, pour compter, ben, il suffit de se mettre dans un coin, des gens autour, et puis ça peut exister. Ça me paraissait, je sais pas, une forme plus souple que le théâtre. Mais bon, moi j'aime toujours, je ne veux pas du tout renier le théâtre, j'aime toujours ça en tant que spectateur, et puis quelquefois aussi en tant que comédien.
Comment vous voyez ce festival Conteurs en campagne qui propose comme ça des spectacles de contes dans un grand nombre de villages du Nord-Pas-de-Calais ?
Moi, c'est une région dans laquelle j'aime bien venir depuis. Avant de la connaître, déjà, j'avais envie d'y venir parce que c'est une région que j'ai peut-être connue, comme d'autres, par l'imaginaire avant de la connaître réellement. J'étais un lecteur notamment aussi des Contes d'un buveur de bière de Charles Delain. Et puis, après, moi, j'aime bien cette forme itinérante des festivals, comme ça, où on va dans des endroits un peu reculés. On a chez nous un festival s'appelle Coquelicontes, qui est organisé par les bibliothèques départementales de la région, où on envoie comme ça les conteurs un peu partout, dans les villages, et puis dans des lieux différents, comme, je ne sais pas, aussi, on parlait tout à l'heure entre nous, des prisons, on les envoie dans les écoles, dans les hôpitaux, je ne sais pas. J'aime bien cette forme. C'est vrai que c'est un petit peu difficile pour nous, parce que ça fait beaucoup de voyages, souvent entre deux soirées, mais bon, c'est agréable de rencontrer les gens du pays, de voir des endroits assez différents. Votre région est, je crois, assez vaste et assez variée.
Alors justement, oui, vous en parliez, vous êtes intervenu aussi en prison à Douai. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Comment vous voyez cette intervention?
Disons que je crois que ça se passe bien, quoi, avec les détenus, finalement. Je crois que nous, je parle pour les collègues aussi, on ne veut pas faire de différence entre un public dans un village ou dans une bibliothèque et le public, ce public-là, on sait bien que c'est des gens qui ne vont pas rentrer chez eux quand on va les quitter. Mais bon, pour nous, c'est à peu près le même travail. Après, c'est vrai que l'ambiance de la prison, quand on voit ces portes qui s'ouvrent devant nous et qui se referment à double tour derrière, ça c'est un peu oppressant quand même. Et les détenus, ils aiment bien parler de ça. Ils ont posé la même question hier, la même question que vous, là, comment vous avez ressenti. Mais après c'est presque la même façon de faire qu'avec un public qui paye sa place pour un spectacle le soir. Puis il y a toujours des rencontres étonnantes. Hier après-midi, là, il y avait un jeune qui était de Montluçon. Et Montluçon, c'est à 60 km de chez moi.
Jean-Claude Bray, merci. Puis bonne route alors pour ce festival Contours en campagne. Et à bientôt alors.
Eh bien, merci à vous.